Bonjour à tous, bienvenue dans le Libre Journal du Cinéma, votre émission mensuelle consacrée au 7e art. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois un écrivain, un siphonné de la plume, un obsédé de l'encrier, un de ces types qui se baladent dans la rue, l'œil hagard, cherchant dans un vol de pigeons ses futurs personnages, un boulimique du verbe, un anachorète du rebondissement échevelé, un forçat de l'outrecuidance, un artiste de la dévoration littéraire, j'ai nommé Néo, alias Nicolas Destiendorf. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas Destiendorf, votre dernier livre, La Reine de Mèche, est sorti chez Albin Michel le 26 janvier dernier. C'est votre 36e livre. Alors vous avez écrit sur beaucoup de sujets, dans tous les styles, dans tous les genres, des romans, des biographies, des autobiographies romancées, des dictionnaires, des essais. Alors si on doit se référer à un péché capital, vous avez la prose gourmande, ce qui n'est pas pour nous déplaire, loin de là. Car lire un livre de Nicolas Destiendorf, c'est l'assurance d'être happé par la langue, de plonger dans une intrigue romanesque passionnante, de se mouvoir au milieu de personnages imaginaires ou ayant existé, des personnages si forts qu'on pourrait les toucher, de vivre par procuration mille vies. Bref, de s'évader de notre époque bien terne sous beaucoup d'aspects. L'évasion, le fameux voyage imaginaire, voilà la vocation première de l'écrivain, ce métier d'orgueil absolu et d'humilité complète, comme vous aimez à le définir. Mais si je vous ai invité, c'est pour parler de cinéma. Parler de cinéma en votre compagnie est finalement assez logique, puisque dans cette profusion d'ouvrages, il y a des fils rouges, des liens, des thèmes récurrents, des obsessions, hein, diraient les psychanalystes de comptoir, et notamment le cinéma. Alors nous allons parler de tout ça, de cinéma, de vos deux romans sur les péchés capitaux sortis cette année et l'année dernière, La Reine de Mai et l'Île de l'Orgueil, tous deux publiés chez Albin Michel. Mais nous évoquerons aussi cette biographie consacrée à l'amour entre Signoret et Montand, hein, Simone Signoret, Histoire d'un amour, qui est sortie en septembre dernier chez Kalman Levy, et bien entendu votre passionnante biographie d'Arletty, Arletty, un cœur libre, sans oublier votre roman peut-être le plus cinéphile, Ce que l'on sait, de Max Topard. Nicolas Destiendorf, quand certains rêvent, enfants, de devenir cosmonaute, explorateur ou courtier en assurance, moi je plaisante, ça n'existe pas, enfin, vous rêviez de devenir réalisateur.
Bah oui, en fait, je fais partie d'une génération qui a grandi aussi bien dans les livres que dans les films. J'avais des parents qui adoraient aller au cinéma et une mère qui m'a eu très jeune et qui aimait beaucoup sortir. Donc, de facto, dès que j'ai eu 4 ou 5 ans, elle m'a emmené avec elle au cinéma. Donc, j'ai vu beaucoup de films très jeune, très tôt. Pour moi, ça faisait partie de mon quotidien. On avait une télévision. C'était une époque bénie où il y avait que quelques chaînes. Donc, quand il y avait un film, on le regardait. Il fallait se lever pour changer de chaîne. Donc, quand on s'ennuyait un peu, on le regardait jusqu'au bout parce qu'on avait la flemme de se lever. Et ça, il faudrait un jour écrire des essais là-dessus, sur le rapport à la télécommande et au zapping. Donc, les films ont fait partie de mon imaginaire. En plus, j'ai grandi dans une ville qui est une ville de cinéma, qui est la ville de Senlis dans l'Oise. Ville où ont été tournés énormément de films parce que c'est un lieu commode pour des films historiques. C'est un jet de pierre de Paris. On peut trouver des films qui se passent au Moyen-Âge, au 19e siècle, à l'époque de Louis XIV. Et notamment, le grand film tourné à Senlis, c'était Le Roi de Cœur de Philippe de Broca, tourné intégralement dans la ville de Senlis et à Crépy, en Valois, à côté. Bref, le cinéma, ça fait partie de mon ADN. Et j'ai en fait, rapidement, j'ai eu envie de faire ça. Enfin, quand j'étais adolescent, enfin, dès l'âge de 11-12 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'avais des idées bizarres dans la tête et j'avais envie de les reproduire de façon visuel, je pense par image, les images me marquent. Quand j'ai une façon de voir les choses, je vois les choses comme si je posais une caméra. Et pour moi, c'était naturel d'essayer de reproduire ça. J'ai eu la chance quand j'ai vu 14 ans ou pour Noël, mes parents, alors je les ai tannés, m'ont offert un caméscope.
Ah, formidable.
Voilà. Effectivement, alors maintenant, tout le monde fait du cinéma avec son téléphone portable. Mais là, c'était pas évident à mon âge. Il n'y a pas beaucoup d'autres copains qui avaient ça. Et j'ai pris ça très au sérieux. J'ai commencé à faire des petits films avec des copains. Et sinon, je faisais des gags dans la rue façon La Fesse. Mais j'avais toujours ma caméra. Et d'ailleurs, j'ai tout conservé. C'est assez amusant à regarder aujourd'hui. Et surtout, c'est assez désolant. Mais voilà, j'écrivais des mini-scénarios avec des amis. On essayait de les réaliser comme ça, dans la cuisine de la maison. Et petit à petit, j'ai même fait des stages sur des tournages. Quand j'étais adolescent, j'avais stagiaire sur un film de Nico Papatakis qui s'appelait Les Équilibristes. Voilà, j'ai fait la figuration dans des films parce que mes parents étaient très amis d'un producteur célèbre, hélas mort, qui s'appelait Humbert Balzan, qui était un grand producteur de cinéma et qui était très proche de James Ivory. Donc j'ai fait de la figuration dans des films de James Ivory et j'ai notamment figuré dans La Galerie des Glaces à Versailles en costume, en costume d'époque avec une perruque poudrée, avec le, pour Jefferson à Paris, un très mauvais film, et avec Nick Nolte qui rentrait dans la Galerie des Glaces et qui allait se saluer Michel Lonsdale qui jouait le rôle de Louis XVI. Et dans les, dans, dans les 300 figurants, il y avait moi. Alors là, ah. Si c'était pas prédestiné.
Exact. Et alors, que, alors justement, bah, qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes finalement devenu un romancier avec une profusion de publications. Vous le dites, vous avez atterri finalement un peu dans la littérature, un peu par hasard.
C'est une suite de rencontres. Je voulais vraiment faire du cinéma. Donc, je vous dis, j'ai fait des stages. Et puis après, j'avais deux passions, le cinéma et l'opéra. Je voulais faire réaliser des films et mettre en scène des opéras. Mais pour ces deux activités, il faut... D'abord, il faut un tempérament de chef d'équipe. Il faut un tempérament de tyran. Il faut aimer donner des ordres, éventuellement recevoir. Et j'aime ni l'un ni l'autre. Je suis, en fait, peut-être trop indépendant pour ça. Et en fait, j'aime être le seul auteur de mes succès et de mes échecs. C'est-à-dire que un film, c'est un travail collectif. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime bosser en solo. Je me suis rendu compte que je n'aurais sans doute pas la patience et l'énergie d'attendre 4, 5, 6 ans, en tout cas pour un film, pour en plus faire un travail collectif où je n'aurais pas le final cut, pas uniquement sur le montage, surtout. Et comme j'avais des idées en tête, j'écrivais des scénarios qui n'étaient pas très intéressants, que je mettais dans des tiroirs. Et un jour, j'ai pris une espèce de scénario que j'avais fait, et qui était très bavard. Je me suis dit, mais si je le transformais en ce que je dois mettre dans ma tête, une continuité narrative. Et j'ai fait cette continuité narrative, je me suis rendu compte que ça faisait une sorte de mini-roman, qui était ni fait ni à faire, c'est comme la première crêpe, c'est celle qu'on fait pour chauffer la poêle, après on la jette, mais je l'ai remise dans un tiroir, je me suis rendu compte que ce qui me venait le plus naturellement, c'était pas de filmer des histoires, parce que déjà, en fait, j'avais la flemme, c'était juste de les raconter, et j'ai commencé à écrire des nouvelles, qui ont été publiées, puis des romans, et les choses sont faites comme ça, et je me suis rendu compte qu'en étant romancier, on est tout, c'est-à-dire qu'on est à la fois son scénariste, son réalisateur, son monteur, son producteur, son compositeur, on est tout, et on est Dieu le Père. C'est-à-dire que quand on a connu ce luxe-là, toute autre forme de création narrative paraît en deçà du plaisir qu'on a eu en étant le seul maître à bord.
Le seul maître à bord, c'est exactement ça. Voilà. Alors, justement, pour comprendre un petit peu votre rapport un peu au cinéma, je vais vous poser quelques petites... question alors sur vous, et d'abord nous allons passer donc à cette question.
Je te pose la question une seconde fois, je te la poserai pas une troisième. Qui, nom et adresse.
Voilà, bon, c'était un petit générique, ça reprenait une phrase du samouraï d'Alain Delon dans Le Samouraï. Alors, vous pouvez enlever votre casque.
Oui,
hein, voilà.
J'ai pas entendu en fait.
Oui, non, c'est pas très grave. Alors, on va commencer votre film de chevet, Nicolas Descendor.
Alors ça, c'est vraiment la question la plus compliquée parce que ça change. C'est comme mes compositeurs de chevet. C'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un film que j'avais découvert quand j'étais adolescent et auquel je le reviens systématiquement, même si je ne l'ai pas eu depuis plusieurs années, c'est La Règle du jeu. C'est extrêmement bateau, mais ça a vraiment... Renoir est une sorte de terre-mère auquel je reviens régulièrement. Tout à coup, ça m'agace, puis j'y reviens en me disant, mais voilà, c'est comeback, c'est une sorte de permanence, d'évidence, ça existe, c'est incontestable, c'est d'une modernité absolument sidérante. Voilà, là, je revois en ce moment, parce que c'est vraiment un de mes cinéastes préférés, les films de Duvivier, et il y a un tel fossé entre Duvivier et Renoir, qui ont chacun des qualités respectives, mais c'est terrible à dire, Renoir, il y a une sorte de grâce qui fait, quand on regarde ces films, on a l'impression qu'ils ont été improvisés. On a l'impression qu'il est arrivé, qu'il a posé sa caméra. Et il y a une liberté, alors que tout était verrouillé à l'extrême. Il y a une liberté dans les mouvements de caméra, dans le jeu des comédiens, dans la direction des acteurs. Alors que pourtant, on a l'impression qu'il prend l'humanité comme Asmodée qui soulève le toit des maisons. Et il nous la montre à un instant T, alors que... Et ça donne une modernité, une impermanence, si je puis... Enfin, une permanence plutôt à ce qui filme, qui le rend vraiment universel. Donc je vais quand même dire La Règle du jeu, même si je pourrais vous en dire 200 autres.
Non, oui, bien sûr, choisir, c'est renoncer.
C'est ce qui vient spontanément, et Dieu sait, en plus je l'ai vu depuis plusieurs années, mais à chaque fois que je la revois, je suis terrassé par la perfection, le génie, et en même temps, avec un nombre de boursouflures, de choses étranges, de choses datées, mais c'est un film vraiment qui a été touché par la grâce.
Alors, le film que vous ne conseillerez pas, même à votre pire ennemi.
en a tellement, il y en a
oui,
tellement.
Il y en a peut-être trop.
Je veux dire, la dernière fois que j'ai vraiment été en colère contre un film, pourtant c'était dans un avion et en fait j'ai rien vraiment contre, c'est quand j'ai vu Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que des millions de gens sont allés voir ce truc? Ça montrait. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que ça parle de gens de ma génération, c'est qu'il a mon âge, Canet. En plus, c'est très bien fait, très bien joué, très bien construit. Et on voit une bande de cons, riches, incultes, qui sont juste là à se raconter leurs problèmes de gens cons, riches et incultes au Cap Ferret. C'est d'une vacuité, c'est d'une inanité. Ces gens sont bêtes, ils ne lisent pas, ils ne s'intéressent à rien, juste à leur histoire de cul les uns avec les autres et leurs problèmes de fric. Et j'avais trouvé ça, mais j'ai dit, c'est ça ma génération, j'ai grandi avec ces gens-là. Et en même temps, c'est le révélateur de ce qu'est, voilà, des post-boomers. Et en plus, le problème, c'est que c'est très bien fait, c'est que des excellents comédiens. Et j'ai sans doute pris une forme de plaisir pervers à le regarder. Et en fait, je m'en veux d'avoir pris du plaisir à le regarder. Et le film ne m'en a semblé que d'autant plus odieux.
Ça vous a conforté dans l'idée que vous étiez quelque part hors du temps, alors.
Oui, mais c'est-à-dire, mon Dieu, ma génération, ça fait ça, c'est ça la fin d'une génération. Alors que quand justement, vous voyez que ce que Jean Renoir fait sur son époque à lui, avec la grecque du jeu, alors c'est incomparable, bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment, on est dans une ère de vacuité, de creux, d'un gigantesque trou dans le temps.
Le navet. Non, mais je suis assez de votre avis. Le navet que vous défendrez jusqu'à la mort.
Ah bah c'est pas des navets, mais moi j'ai j'aime pas le mot navet parce qu'en fait ça ne correspond pas, puis j'ai fait un dictionnaire du mauvais goût, donc pour moi le
film raté le plus superbe,
le cinéaste qui est celui qui m'a fait rentrer dans l'univers de la singularité cinématographique, c'est Jean-Pierre Mocky. Mocky, ça a été mon dépuceleur. J'ai découvert ses films quand j'avais 10 ou 11 ans. Et ça a forgé mon imaginaire, le côté décalé, le côté cinglé, le mélange de maîtrise technique et de bordel absolu. Et on a toujours dit que la plupart de ces films étaient des navets, certains de ces films, et que c'est un niveau de décalage qui confine à l'échec ou au ratage. Alors pour moi, c'est un grand cinéaste, un grand univers. C'est une espèce de peintre à la Jérôme Bosch qui a créé ce qu'on appelait le Mocky Circus, cet univers visuel avec des comédiens qui ne savaient jouer de cette façon-là que chez lui, notamment Bourville ou Francis Blanche, qui ont été incroyables, ou Michel Serrault, tous ces gens-là. Et ce sont des œuvres hors du temps, une fois de plus, mais d'une façon très différente de Renoir. Et pour moi, voilà, je veux dire, on ne sait pas ce que c'est que le cinéma français, même que le cinéma tout court, si on n'a pas été faire un tour chez Mocky.
Le film que vous auriez aimé réaliser.
Ouf.
Oh, difficile.
Mais alors, c'est très difficile, le film que j'aurais aimé réaliser. Ça, c'est... Mais enfin, en fait, je sais pas, parce qu'il faudrait quelque chose qui... Un grand chef-d'œuvre, j'y arriverai pas. Peut-être un film comme Voici le temps des assassins, ce genre de choses, parce qu'il y a une espèce de... Il y a Paris, il y a Léal, il y a la bouffe, il y a Gabin, il y a du vivier, il y a cette atmosphère à la fois totalement artificielle et incroyablement réaliste. Et puis c'est la jonction, c'est avant la bascule de la nouvelle vague, c'est avant la bascule d'autre chose du cinéma français, c'est un peu les derniers feux d'un certain cinéma de qualité française que moi j'adore.
Mais Truffaut aimait beaucoup ce film.
Bien sûr, oui, c'est un de ceux qu'il avait défendu, absolument. Ouais. Mais sinon, non, ou alors un film que j'aimerais aimer réaliser. Enfin, il y a une chose qui me fascine, qui n'est pas un film, qui est un montage, c'est le voyage à travers le cinéma français de Tavernier, que je trouve, voilà, qui est un documentaire, mais ça, en fait, j'aurais aimé le réaliser pour pouvoir faire comme lui, voir tous ces films pendant des heures et des heures et des heures et découvrir et charcuter et donner son point de vue. Pour moi, c'est un film que je regarde au moins deux fois par an et qui est une véritable, à la fois une Madeleine de Proust, c'est une perpétuelle merveille de redécouverte.
Très bien. j'ai encore plein de questions.
On y va, on a le temps.
Attention. Alors, le chef-d'œuvre qui vous laisse de marbre. Alors, soit parce que vous sentez que c'est un chef-d'œuvre, ou alors vraiment, il vous hérisse le poil. Ou alors, vous êtes tout simplement passé à côté.
Une fois de plus, je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui me... qui sont incontournables, qui ne m'ont jamais parlé. Je suis toujours resté, c'est plus des atmosphères, je suis toujours resté totalement hermétique à Eric Rohmer, par exemple, ça ne me parle pas. À toute une série de films de François Truffaut aussi, que j'aime bien, mais voilà, je lui préfère Louis Malle ou Jacques Rivette. Rivette me fascinait, alors que pour beaucoup de gens, Rivette était un cinéaste soporifique. Moi, il y avait Céline et Julie vont en bateau, Le Pont du Nord sont des films qui sont tellement mystérieux, tellement inexplicables. J'aime bien ne pas comprendre quand je vais voir des films, en tout cas des films de cette période-là, mais des grands chefs-d'œuvre. Mais voilà, et vous avez, par exemple, j'ai toujours été assez hermétique aussi au film noir américain de l'époque Bogart et tout ça, ça m'ennuie à périr. Ah oui, j'avais d'accord. Un grand-père américain qui adorait ça.
Le
Faucon Maltais, tout ça, Le Port de l'Angoisse, tout ça, en fait, ça m'ennuie. C'est-à-dire, le cinéma américain de cette période-là ne m'a jamais vraiment enthousiasmé. Moi, j'avais une fascination pour Wells, que j'ai découvert en même temps Gros Noir, et c'était un peu mon alpha et mon oméga. Et quand je voyais ce que Wells arrivait à tricoter avec des moyens complètement bordéliques et juste une sorte de génie visuel, même quand il se foutait totalement des histoires qu'il était obligé de filmer, comme celle de la Dame de Shanghai ou de la Soif du Mal. Le génie visuel est tellement écrasant que voilà, quand on voit ce qu'il pouvait faire alors que le cinéma américain était encore vraiment sur des rails, voilà, il y a pas un film qui me laisse froid, c'est plus des atmosphères, des univers ou des inspirations qui ne me touchent pas.
Le film pour apprendre à devenir écrivain.
Ça, c'est une bonne question. Le film pourra. C'est une question un petit peu. Là, c'est un peu.
On peut en passer.
Non, mais je suis en train de rire parce que le. Je pense à des films qui, moi, là, où l'écriture m'a.
Peut-être la création.
Moi, j'ai été baigné par les films de Renan. La filiation, par exemple, entre Maupassant et Renoir dans La Partie de campagne, voilà, ça donne envie de décrire ce qu'il nous montre. Ça donne envie de décrire la nature, ça donne envie d'écrire le frisli du vent sur l'eau, ça donne envie d'écrire le vent qui passe dans les roseaux, l'émotion de Sylvia Bataille qui découvre la sensualité, tout ça en une image et en une phrase de Maupassant, il y a un va-et-vient incroyable. Et voilà, je dirais peut-être La Partie de campagne de Renoir. D'ailleurs, Partie de campagne sans l'article.
Très bien. Le chef-d'œuvre. Alors, le chef-d'œuvre que vous n'avez toujours pas vu, même si vous prétendez le contraire dans tous les dîners. Ou qui vous reste à découvrir.
Qui me reste à découvrir. Mon Dieu, il y en a sûrement plein. Mais une fois de plus, ça va être des films. Ça va être des grands films américains des années 50, 60. Alors, des chefs-d'œuvre récents, il y en a sûrement plein, mais j'y vais beaucoup moins. Donc, et puis, quand on parle de chef-d'œuvre d'un film sorti la veille, je me méfie. Je me méfie, mais attendez, des films que je n'aurais jamais vus, mais il y en a. Il faudra qu'on revienne parce que ça me viendra, à mon avis, au cours de la conversation. Parce que oui, il y en a plein. Il y en a des caisses. Oui, si, par exemple, je ne me souviens pas d'avoir jamais vu Le Guépard. De Visconti, j'ai vu tous les autres, mais je crois que Le Guépard m'est passé entre les pattes. Il faut que je le voie, mais Dieu sait si ma italienne de cette époque me passionne, mais j'ai tellement vu de photos, je pense que j'ai jamais vu Le Guépard. Voilà.
Ah oui, c'est peut-être partie de ces films, on a vu tellement de choses aussi, on se dit, j'ai forcément vu.
Je me revois voyant Senso, Mora Venise, je l'ai vu beaucoup de fois, Les Damnés, bien entendu, beaucoup de fois, mais Le Guépard, je me demande si je ne l'ai pas zappé. Voilà, on va dire Le Guépard.
Max Linder ou Charlie Chaplin?
Chaplin quand même.
La première réplique de film qui vous vient en tête?
Alors le truc, j'entends réplique de film, je pense T'as de beaux yeux, tu sais, et pourtant c'est pas du tout un film mais hélas, voilà, c'est pas un film pour lequel j'ai une passion particulière, mais là vous m'avez dit réplique, c'est venu naturellement, donc je vais être honnête.
Alors. Dernière question. Une très grosse société de production est sur le coup pour faire un biopic de votre personne.
Mon Dieu.
Voilà.
Ça n'aurait aucun intérêt.
On ne sait jamais. Qui pour vous incarner? Acteur vivant ou plus de ce monde, hein.
Oh, mon Dieu. Bah, il faudrait quelqu'un qui soit un peu vieille France, un petit côté avec un petit côté un parler précieux. Il y a un acteur très élégant que je ne suis pas autant, mais que j'adore de l'avant-garde, c'est André Luguet. Donc j'aimerais beaucoup qu'André Luguet joue mon personnage, même s'il était un peu plus vieux. Voilà.
Et quel réalisateur?
Quel réalisateur Oh bah Mocky, parce qu'il ferait des horreurs, il ferait jouer tout le monde faux, et ça ferait quelque chose de vraiment, vraiment potache. Et moi, il faut qu'il y ait toujours un petit côté canular.
Très bien. Et enfin, quel compositeur pour la musique de film?
Alors, compliqué. Alors, bah, si on arrive à ressusciter Maurice Jaubert, quand même, je pense
Ah.
qu'une petite valse de Jaubert, comme ça. Et avec un côté un peu canaille, un côté un peu opérette aussi. Ou Vamparis, là, voilà. Et qui est une chanson de Vamparis et une musique de Jaubert, voilà.
Ça tombe très bien, parce qu'on écoutera justement plus tard un morceau de Maurice Jaubert. Eh bien, nous allons continuer. Alors, cette fois, nous allons continuer un peu notre discussion sur le cinéma, puis en abordant bah, votre dernier roman, La Reine de Mai, qui fait partie d'une série sur les sept péchés capitaux. Donc, là, on parle du péché de la luxure. Et avant cela, nous allons écouter une musique alors que j'ai choisie qui m'a fait penser à la Reine de Mai, et puis on va en parler un petit peu, vous allez me donner votre avis. Alors, certains auditeurs l'auront reconnu, il s'agit du générique de la série mythique Twin Peaks de David Lynch, sorti en 1990 sur cette enquête sur la mort de Laura Palmer. Je vous dis ça parce que cette série est connue pour ce ton très étrange, très décalé, un peu onirique à certains moments, poétique. On louvoie comme ça sur plusieurs genres. Et cette ambiance-là, on va la retrouver beaucoup dans La Reine de Mai.
Ah bah écoutez, vous me faites plaisir, parce que mais Twin Peaks, etc. J'aime certaines choses de Lynch, d'autres pas du tout. J'adore Twin Peaks, j'adore Mulholland Drive, j'aime bah comme Rivette d'ailleurs, j'aime le Lynch énigmatique, sans, mais j'aime pas le Lynch outrancier, le Lynch de C'est l'heure et l'heure, ou de... comment ça s'appelle? Avec l'oreille coupée.
Blue Velvet.
Blue Velvet, voilà, ça me fatigue un peu, ce Lynch un peu hurleur. Mais ça vous fait plaisir parce que oui, ce côté, on est à la frontière de la réalité, de l'onirisme, et toujours avec un petit décalage presque cocasse. C'est ça qui est important, c'est être d'avoir le réalisme, la folie et la farce.
Alors justement, alors je rebondis, je fais une petite digression par rapport à la série Twin Peaks. Vous êtes aussi un amateur de séries et vous aviez même dans une de vos entretiens recommandé une série que j'ai vue plus tard qui s'appelle Boss.
Absolument, excellente série avec Kelsey Grammer qui joue le rôle du maire de Chicago, et ça commence par un plan fixe. On le voit qu'il apprend qu'il a une maladie dégénérative qui va perdre la raison en quelques mois. Et en même temps, il faut qu'il garde le pouvoir et c'est sa réélection, et il faut qu'il cache l'information. Excellente série.
Malheureusement, qui n'a eu que, je crois,
Deux
deux
saisons, bah
saisons.
en fait, ça a beaucoup dérangé, et en fait, parce que c'était d'une violence sur ce que sont les États-Unis, et c'était longtemps, longtemps, longtemps longtemps avant l'ère Trump. C'est assez intéressant. Il y avait un côté un peu prémonitoire.
Oui, parce que je crois que c'est une série de 2011.
Ouais, ça doit avoir une bonne quinzaine d'années. Ouais. Et Kelsey Grammer, qui était un comédien plutôt de choses, de séries comiques sur le sport, s'est révélé un acteur absolument remarquable, totalement sous-exploité depuis.
Alors justement, donc parlons de La Reine de Mai. La Reine de Mai, c'est l'histoire de Tobias Ganser, qui a trois vies, expert en tableau ancien, faussaire de génie, et puis homme à femme. Et puis, on va le suivre à travers cette quête d'une peinture mythique, La Reine de Mai. Je n'en dis pas plus parce qu'après, il faut vraiment voilà, que les gens qui aiment qui aiment votre style, qui aiment vos livres, se plongent dedans parce qu'il y a... C'est une atmosphère mystérieuse, décadente, mais sans en faire trop. Et puis, vous retournez un peu le problème à l'envers en parlant finalement un peu de c'est un personnage magnifique, mais en même temps totalement loser, sur bien des aspects. C'est toujours très bien écrit. Comment vous avez construit ce roman, alors, qui justement multiplie un peu les points de vue? Ça vous est venu un peu comment ce...
Alors, il faut dire, c'est une série de 7 romans sur les 7 péchés capitaux. Et ce sont des romans qui sont indépendants, mais qui se répondent. Et je voulais avoir un sujet différent par livre, bien entendu, et même un genre littéraire, si je puis dire, différent. Un dispositif romanesque et narratif différent. Le premier, L'île de l'orgueil, sorti l'année dernière, c'est vraiment un roman d'atmosphère, une espèce de thriller psychologique en huis clos dans une île qui se suit de façon très, très linéaire, avec un début, un milieu, une fin et des retournements de situation. Là, c'est plus... Là, autant L'île de l'orgueil regardait du côté de Daphné du Maurier, là, on est dans une atmosphère plus différente, plus disons décadente, si je puis dire, un peu plus vénéneuse. Et voilà, moi là je pensais plus à ces romans fin de siècle français avec des personnages qui sont des espèces de dandys décadents un peu complaisants et un peu malsains. Et c'est un livre sur la peinture, donc c'est enfin l'histoire d'un expert en peinture qui est en fait un faussaire et qui a du génie quand il copie les œuvres des autres et quand il veut peindre pour lui-même, pardon, lapsus révélateur, il n'y arrive pas. Et donc c'est une histoire de luxure et d'impuissance. Et c'est une histoire de tableau, c'est une histoire, et en fait c'était aussi un portrait, mais un portrait en creux, c'est-à-dire qu'on a le personnage qui est vu par 6 ou 7 points de vue différents, qui sont ses proches, une de ses victimes maîtresses, son ex-femme, enfin différentes personnes.
Et un rôle très important.
Et tout est autour de cette notion de tableau, et surtout de tableau vu comme une fenêtre. C'est-à-dire que moi, c'est une obsession que j'ai depuis mon tout premier texte, qui s'appelait Le sourire des enfants morts, qui était une histoire de tableaux cachés dans Paris, qui n'étaient pas des tableaux, mais une fenêtre qui permettait d'accéder au Paris d'avant, c'est-à-dire que le Paris de l'âge d'or, mais le Paris même d'avant que la ville existe. Et là, cette histoire de tableau m'obsède depuis toujours, et je voulais retrouver ce thème du tableau qui est une fenêtre donnant sur un monde parallèle, comme le miroir d'Alice au Pays des Merveilles, ou comme dans Max Topa, on en reparlera tout à l'heure, où l'écran de cinéma est aussi l'accès à une réalité autre. Et donc j'ai vraiment pensé comme ça mon histoire. Quand j'étais gamin, l'un des films que j'ai le plus vu, c'est le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert, dans lequel il y a un tableau représentant le fameux roi, et à un moment le roi du tableau sort et le roi de la réalité passe dans le tableau, et donc il y a une inversion d'identité, il y a une inversion des personnages, et ce sont des thèmes qui m'ont toujours passionné. Et là, en l'occurrence, on est devant un homme qui voit un tableau et qui en tombe amoureux, et qui tombe amoureux fou. Mais est-ce qu'il est amoureux du personnage du tableau? Est-ce que le personnage existe vraiment? Est-ce qu'il a des relations physiques, sexuelles avec le personnage du tableau? Ou est-ce qu'il est juste complètement cintré? Ça, c'est dans le livre.
Ça, c'est dans le livre, justement. Alors, c'est ça qui est très amusant dans ce livre, c'est que vous aimez les contrastes, vous aimez les choses assez fortes. C'est-à-dire que ce tableau-là, ce magnifique tableau, il est dans un pavillon de banlieue, mais qui reste une sorte d'enclave au milieu de bars absolument sordides, enfin monotones en tout cas, comme il y en a qui fleurissent dans la banlieue. Vous aimez, vous jouez beaucoup avec ces contrastes assez forts.
Ça, la rupture de ton, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime au cinéma. J'aime bien quand un film n'est pas juste, quand un film d'horreur n'est pas qu'un film d'horreur, quand un polar n'est pas qu'un polar. Quand on peut passer du rire aux larmes, c'est pour ça que j'aime la règle du jeu de Renoir, qui passe du burlesque au tragique en un plan. Et c'est ça qui... Et quand quelqu'un, que ce soit un réalisateur, un cinéaste, même un compositeur, arrive à changer la tonalité sans perdre la fluidité de son texte, et ça, ou de son livre, ou de son film. Je trouve ça toujours assez, assez jouissif, et c'est ce que j'essaye très modestement de faire dans mes livres, c'est-à-dire ne pas, disons, me circonscrire à un genre littéraire particulier, à une atmosphère particulière, et pouvoir opérer des glissements très subis, mais sans pour autant, perdre mon lecteur, enfin j'espère, et pouvoir, voilà, pour pouvoir jongler avec tout l'éventail des sensations, du ressenti, pour ne pas juste être devant des livres qui sont des paires de charentaises, si je puis dire.
Mais justement, alors c'est intéressant parce que ce cloisonnement des genres, finalement, est un problème assez franco-français qu'on
Bien
retrouve
en
littérature et puis aussi dans le cinéma, en tout cas. Vous avez toujours voulu vous défendre justement d'être un peu affilié à un genre et vous aimez bien, je crois, vous définir un peu comme hors-genre justement.
Hors-genre ou ce qu'on appelle les mauvais genres. Là, l'autre jour, j'étais dans l'émission de mon camarade François Angelier sur France Culture. Voilà, oui. Ce qu'on appelle les mauvais genres, une fois de plus, en fait, c'est un problème français où le fantastique, voilà, on fait soit du fantastique, soit du polar, soit du roman psychologique. Dans les pays anglo-saxons ou encore plus dans les pays latino-américains, cette frontière n'a pas lieu d'être. Je veux dire, il y a des bons livres et des mauvais livres. Les grands romans américains flirtent avec tous les genres. Un auteur comme Stephen King, qui a été regardé de haut pendant des années, est un des plus grands romanciers naturalistes américains qui décrit ce que c'est que la société américaine. Et surtout, il le décrit par le biais de ses peurs, de ses angoisses, de ses névroses. Et il dit beaucoup plus sur ce qu'est l'Amérique, ce qu'est la psyché américaine, que des grands romans célébrés et qui, en fait, ne sont plus lisibles. Voilà, parce qu'il prend les choses de l'intérieur, il jongle entre les genres. Une fresque comme ça, comme le fléau, ça en dit tellement plus, et ça, voilà, il y a un côté, ça s'approche beaucoup plus des grands romans russes, en fait.
Oui, par exemple, Crime et Châtiment, pour reprendre...
Bien sûr, voilà, qui est un roman policier.
Exactement. Voilà. Et qui... Alors, justement, ce qui est très amusant, c'est... Alors, je conseille, justement, alors nous allons parler après de L'île de l'orgueil, mais pour les gens qui n'auraient pas lu le premier... tome de cette série, on va commencer un peu à parler justement de cette construction de série. Série qui, alors, comment c'est, les sept péchés capitaux, L'île de l'orgueil, et alors ce qui est très amusant, c'est que, comme vous dites, ça se répond. C'est-à-dire que quand on a lu L'île de l'orgueil, on commence à deviner, déjà vous commencez à poser un peu vos jalons pour...
Absolument.
Pour plusieurs livres suivants, on se dit, tiens, c'est marrant ce mot-là, cette référence-là, tiens, ça doit sûrement avoir un lien. Dans La Reine des Mets, on voit des références à certains personnages de l'île.
Vous m'avez bien lu, ça fait plaisir.
Ah oui, mais il y a un côté assez jouissif, justement, parce qu'on sent que vous avez bien tissé votre toile. Alors, racontez-nous un peu la genèse de ce projet, qui est quand même dans une époque où tout est très instantané, un peu fou, quoi.
Bah, oui, il y a un petit côté Cluedo qui m'amuse beaucoup. En fait, ça s'est fait en deux temps. Au départ, j'avais écrit un livre qui portait un autre titre et qui s'appelait Une seconde nature, qui devait sortir chez Albin Michel. Et l'éditeur ne savait pas dans quoi le caser, toujours ce même problème. Donc, est-ce que c'est un roman noir, est-ce que c'est un polar, est-ce qu'on le sort en rentrée littéraire, en collection blanche, ce qui était prévu, en fait. Et pour plein de raisons, j'ai décidé de le retrancher, j'ai dit non. Je vais le repenser intégralement, je vais le refagoter, si je puis dire, parce qu'il y a un côté très artisanal dans ce que je fais, et c'est revendiqué. Et j'ai dit, bon, je vais vous proposer, le thème principal, c'est l'orgueil, et une série de sept romans sur les sept péchés capitaux s'est fait très peu de fois. Il faut remonter à Eugène Sue pour retrouver une telle occurrence. Ou alors, j'ai vu apparemment, il y a un auteur de romance en ce moment qui a fait ça aux États-Unis. Tant mieux.
Tant mieux
pour tout le monde. Et j'ai entièrement repensé mon intrigue. Enfin, mon texte, l'intrigue est restée la même. Et j'ai imaginé les six intrigues suivantes. J'ai dressé un plan détaillé, enfin, un synopsis pour certains, un plan détaillé pour d'autres, et en tissant des lignes entre les personnages, avec un côté un petit peu comédie humaine, Rougon-Macquart, en toute modestie bien sûr, pour que les livres se répondent, qu'ils puissent se lire dans tous les ordres, mais qu'ils fassent partie d'une même... d'un même univers, d'un même système solaire dont je suis l'astre central.
Ben oui, à côté des demi-heures.
Absolument. Donc moi qui aime, en fait, j'adore construire, j'adore bâtir. Peut-être que j'aurais dû en fait être architecte ou pâtissier, mais j'aime beaucoup faire ça. Et donc c'était assez jouissif avec pour ligne directrice une espèce de personnage Deus Ex Machina, qui est un romancier dans le premier, qui est un auteur, qui est un expert en objets d'art dans le suivant, qui est là pour déclencher le péché. Et ensuite, voilà, là, je travaille sur les suivants, mais c'était, voilà, c'est C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pré-scénarisé tout ça, puisqu'on peut rester dans le cinéma, et c'est un exercice absolument grisant de mettre en place plus qu'un roman, c'est-à-dire une véritable, un véritable univers romanesque, comme, bah, comme savent faire les anglo-saxons, ou notamment dans l'univers de la fantasy, des gens comme voilà, l'auteur de Game of Thrones, enfin, Monsieur Martin,
oui, oui.
Voilà, c'est, ou comme a pu faire Tolkien, alors moi c'est totalement différent, mais arriver à inventer un monde complet avec ses références, sa cohérence, son intégrité, voilà, intérieur, cette espèce de logique intérieure, très 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 amusant.
Oui, c'est d'ailleurs souvent le postulat de base de la fantasy, c'est de bâtir un univers dans lequel après on va...
Oui. Et ce qui est amusant, c'est justement c'est de prendre un postulat de base de fantasy avec des romans ultra contemporains. Oui. Généralement, je fais du roman en costume. Là, c'est des romans qui se passent maintenant.
Et ben justement, par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'on vous a habitué. Alors, les fidélités successives, la gloire des maudits, ou puis même dans vos biographies romancées, vous êtes le témoin. Vous aimez plonger dans des époques souvent assez troubles, d'ailleurs. Et là, vous partez dans donc, notre époque actuelle. Est-ce qu'il y a aussi un côté un peu jouissif de se dire ah ben là, il y a moins de recherche. Cherche à faire, forcément, il y a ce côté on est direct dedans, qu'est-ce qui vous a...
Bah, je voulais faire quelque chose de différent. Alors, c'est jamais moins jouissif de ne pas faire de recherche, parce que les recherches, j'adore ça, c'est ce que je préfère. J'adore découvrir des choses, le faire partager avec mes lecteurs. Et aussi, je suis beaucoup plus chez moi quand j'écris, quand je me plonge dans une époque qui est de 50, 60, 70 ans en arrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression, de toute façon, je suis né dans les années 20 ou dans les années 30. Que je le veuille ou non, ça, voilà. je viens de cette période-là. Mais non, pour moi, c'était même un défi d'être dans la période ultra-contemporaine, parce que c'est une période pour laquelle j'ai pas de passion particulière, qui m'inspire pas beaucoup d'affection ou de sympathie. Voilà, c'est une période dans laquelle je vis un peu en franc-tireur. Je vis dans des îles, dans ma tête et même physiquement. Mmh. J'aime bien vivre dans des bulles. Le monde tel qu'il est, voilà, il suffit de passer 2 heures sur Instagram pour être un tout petit peu... Voilà, un petit peu affligé, si je puis dire. Enfin, en même temps, à qui je parle comme un vieux con et je le revendique. J'ai des enfants qui sont beaucoup plus dans leur époque et qui ont raison. Ça sert à rien. Voilà, on est toujours le vieux con de quelqu'un. Et donc, non, là, il y avait un côté. Voilà, je voulais m'inventer presque une nouvelle identité d'auteur, d'où le pseudo Néo, qui est en fait sont mes initiales. Tout le monde m'appelle comme ça. C'est le nom que je porte, si je puis dire, dans le milieu dans la presse et dans le milieu littéraire depuis presque 30 ans maintenant. Donc c'est pas du tout quelque chose de caché. C'était comme Jacques Laurent, Cécile Saint-Laurent. C'était quelque chose d'ouvert. Mais pour marquer, voilà, pour être, disons, pour signer, pour contre-signer une nouvelle atmosphère, un nouvel univers.
Un nouvel univers. Eh bien, écoutez, nous allons, alors, toujours un peu dans cette, la Reine de Mai, nous allons maintenant glisser vers l'île de l'Orgueil. Juste avant, nous allons, j'avais envie de faire une petite référence à la Reine de Mai, par une musique de Michel Legrand, parce que finalement, ce Tobias Ganser est à la recherche, quelque part, d'un idéal féminin. Donc allons écouter la chanson de Maxence.
Une bière pour Monsieur Maxence.
Alors il l'a trouvée ?
Toujours pas.
Qu'est-ce qu'il a perdu ?
Son idéal féminin.
Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose.
Il l'a peint, paraît-il, c'est un peintre poète. Il fait son service ici.
L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image.
Voilà la chanson de Maxence, Jacques Demy, Michel Legrand, très grand film, Les Demoiselles de Rochefort.
Moi, j'aime beaucoup Jacques Demy. J'aime beaucoup le tandem Demy-Legrand. Les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Roche, je pourrais même peau d'âne. Voilà, alors pour le coup, il y a un kitsch, justement, il y a une agressivité visuelle revendiquée, et tous ces chanteurs qui ont accepté, ces comédiens qui ont accepté de jouer le jeu d'une espèce de féerie à la fois ridicule et sublime. Voilà, il y a une vraie honnêteté intellectuelle, esthétique, artistique, une vraie cohérence, et on peut détester ça, et j'aime bien les choses qu'on adore ou on déteste, en fait.
Alors passons maintenant à ce livre, qui est le premier d'un peu de la série, très cinématographique lui aussi, parce qu'on pense, alors justement, on pense à beaucoup de choses. L'île de l'orgueil, donc, qui est votre premier, qui est sorti l'année dernière.
Et qui vient de sortir en livre de poche.
Donc vous pouvez justement vous procurer les deux premiers tomes très, très facilement. Donc là, c'est l'histoire de Antoine Roquenot, 47 ans, écrivain totalement raté. Il faut lire là, le premier chapitre où il se retrouve au Décathlon. Là, je crois que c'est Décathlon de la Madeleine.
Décathlon de la Madeleine, acheter une tente Quechua.
La tente Quechua, et qui, voilà, et qui, bon, c'est un clochard, hein, enfin,
oui.
Totalement, et qui va se retrouver en prise avec justement ce personnage dont vous aviez parlé, Mac Auberger, un romancier célèbre, mais qu'on ne voit pas et qui sort un best-seller par an. Et voilà, ça va être une question d'identité. Formidable déjà ce...
En fait, c'est une histoire de substitution, de permutation d'identité. Il fallait que je trouve un nouveau sujet et de roman, et je voulais faire de toute façon à la base une histoire un peu plus courte, un peu plus contemporaine. Et j'avais relu deux livres que j'avais adorés. C'est Le Cavalier suédois de Léo Peyrouts, qui est un roman des années 30. Peyrouts était un de ces écrivains pragois de langue allemande, comme Kafka, qui imaginait des intrigues qui étaient à la croisée de Borges et Hitchcock, mais toujours dans les contextes historiques. Et là, c'était l'histoire de deux soldats qui échangeaient leur identité pendant des guerres au XVIIIe siècle. Et un autre roman que j'avais adoré, qui est Le Bouc émissaire de Daphné du Maurier, qui est un roman qui a été adapté deux fois au cinéma, très mal, et c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est le meilleur livre de Daphné du Maurier, encore plus que Rebecca, ma cousine Rachel, parce que c'est un livre presque à la Simenon, c'est un livre qui se passe au Mans. On n'imagine pas le Daphné du Maurier dans la Sarthe, pour ça, c'est un livre qui se passe au Mans, c'est dans une atmosphère presque à la Chabrol, avec un type qui se découvre un sosie et qui vole sa vie. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire une histoire de vol de vie ou de permutation d'identité, de sosie. Et j'ai imaginé cette histoire dans un monde d'écrivains, avec un écrivain dont on ne connaît pas le visage, dont on ne connaît que la voix, et une espèce de clochard écrivain raté qui a curieusement la même voix que lui. Et ils vont échanger leur vie pour le meilleur et pour le pire.
Alors justement, on pense beaucoup, vous avez cité effectivement Daphné du Maurier, on pense beaucoup aussi à Rebecca, et nous allons écouter justement la musique du film Rebecca d'Alfred Hitchcock, la musique de Franz Waxman.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Il s'agissait donc du thème de Rebecca, composé par Franz Waxman pour le film d'Alfred Hitchcock, sorti en 1940 avec Laurence Olivier. Alors, L'île de l'orgueil, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Vous êtes fasciné par les îles, vous êtes quelqu'un d'insulaire. Vous vivez, donc vous racontez que vous passez souvent des vacances sur une île. Votre îlot parisien est une sorte de voilà, pareil, une île. Vous êtes un peu un Robinson Crusoe des temps modernes.
Robinson Crusoe, alors, qui apprécie les temps modernes, parce que les temps modernes permettent de pouvoir s'isoler. L'Internet, toutes ces choses-là permettent de pouvoir aller loin tout en restant en contact, avoir un pied dans le monde réel et soi-disant professionnel, tout en s'isolant. Et ça, je veux dire que notre époque actuelle permet des choses qui auraient été impossibles il y a encore 40 ans. Mais en fait, j'ai passé jusqu'à l'été dernier, maintenant c'est fini, hélas, tous mes étés dans une île perdue de l'autre côté de l'Atlantique, à la frontière du Canada et des États-Unis, où j'ai écrit absolument tous mes livres. Et là, vraiment, c'est un endroit où j'allais pendant 2 mois. Je coupais tous les ponts, à part le Wi-Fi. Et je vivais en short et en t-shirt à écrire mes livres. Et chaque année, je revenais avec un nouveau livre dans ma besace. Mais effectivement, je vis à Paris dans une... Ben, quand on est écrivain, quand on a un quotidien entre guillemets d'indépendant et de créateur, on est son propre patron. C'est pour ça qu'aussi que je préfère être écrivain plutôt que cinéaste. On n'a pas d'horaire, on n'a pas, à part ce qu'on s'impose, et donc ça implique d'être encore plus discipliné que si on travaillait avec une vie de bureau. Moi, je me lève à 5h tous les matins, ce que j'ai fait ce matin, j'écris, je fais un peu d'exercice, je vous ai rejoint, enfin tout ça c'est aussi une discipline de vie. Mais en fait, ça se mérite de vivre dans une île, mais le luxe est tellement incomparable. C'est-à-dire de vivre une vie décalée. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est que vous prenez pas le métro à la même heure que les gens. Vous pouvez aller au restaurant un peu plus tôt ou un peu plus tard. Tout ça permet juste de respirer un peu plus, de pas être écrasé par les aléas de la vie quotidienne. Et j'ai eu une chance infinie de pouvoir faire ça, même si ça se paye, parce que ça devient difficile de publier des livres, de les écrire, de les vendre. Enfin, pas dans cet ordre-là d'ailleurs. Mais voilà, tant que je peux faire ça, je continue, parce que c'est un... Voilà, il n'y a pas de chose plus belle au monde.
Mmh. Et alors justement, donc, L'île de l'orgueil, donc ce roman, pareil, comme dans La Reine de Mai, un personnage vraiment de loser. Vous aimez malmener vos personnages. Vous aimez les plonger dans des circonvolution totalement aller au bout un peu. Et là, c'est vraiment un trait typique du genre, c'est d'aller au bout des personnages, de ne pas se freiner quelque part.
Oui, et puis de toute façon, l'intérêt, c'est de ne pas avoir de limites, c'est de faire absolument ce qu'on veut avec ces personnages, tant que ça reste crédible. C'est-à-dire que je n'ai pas de cruauté cachée en moi, où je suis content de les torturer. Voilà, j'ai pas de compte à rendre, ou de vengeance à opérer, à part une fois dans un des personnages des fidélités successives où je m'étais permis une petite fantaisie de ce genre-là. Mais non, ce qui est intéressant, c'est en l'occurrence, mon personnage doit toucher le fond. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et à qui on offre une nouvelle vie. Et il fallait qu'il soit vraiment au fond du trou pour accepter un pacte pareil, qui est un pacte faustien en fait.
Alors il y a un autre, donc je vous recommande, alors voilà, lisez d'abord L'île de l'orgueil, lisez après la Reine de Mai, vous allez vraiment, c'est ce genre de livre, vous le commencez un soir, puis vous le finissez.
Alors, normalement ça se lit en 3 heures.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire Paris-Marseille en TGV, normalement, voilà, pour peu qu'on lise vite, c'est bouclé. Voilà, je suis pour la littérature dans les transports, parce que maintenant, prenez le train, prenez le métro, regardez le pourcentage de gens qui lisent des livres, voilà, c'est un par voiture maintenant, ou peut-être deux.
Oui. C'est assez, oui, effectivement, on est vraiment, tout le monde est sur son smartphone. Et alors, il y a un autre film, dont vous faites référence dans L'île de l'orgueil. C'est le film Plein Soleil. Vous en parlez, et forcément, quand on pense permutation d'identité, on pense forcément à ce chef-d'œuvre. Adapté d'un roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley. Le roman est publié en 1955 et le film date de 1960 avec Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice René, dont nous allons écouter un des thèmes de Nino Rota, La plage. Thank you. Alors c'était le thème La Plage, le dernier thème du film. On voit Alain Delon sur son transat, pensant qu'il est libre. Le thème composé par Nino Rota pour le film de Plein Soleil. Pour vos livres, est-ce que vous avez l'habitude de vous, pareil, de vous donner quelques films un peu de référence pour vos, pour écrire, ou au contraire, les références viennent comme au fil de la construction?
Je suis nourri de films. J'ai une mémoire cinématographique peut-être plus dense que ma mémoire littéraire. J'ai lu beaucoup de livres aussi. Mais en l'occurrence, Plein Soleil, c'est aussi le livre de Patricia Highsmith qui est sorti quasiment la même année que le bouc émissaire de Daphné du Maurier. On est en 55-56. Comme quoi, l'imaginaire des romancières anglaises, voilà, ces deux histoires justement de vol d'identité. Mais oui, je regarde. Et là, en ce moment, j'écris un roman qui se passe dans les années 30 et je bouffe, si je puis dire, des films des années 30 avec un plaisir, avec une gourmandise. Je vis, je pense, je respire par le cinéma français en ce moment des années 35, 36, 37. Et je peux pas être mieux que ça.
Vous êtes au comble du bonheur.
Voilà.
Eh bien, écoute, alors on va parler maintenant de cette biographie romancée de Simone Signoret, Histoire d'un amour, que vous avez publié. Alors, c'est sorti le 30 septembre. Non, c'est sorti en. Oui, c'est ça, en septembre.
C'est sorti le 30 septembre, exactement le jour des 40 ans de la mort de Signoret.
Oui, c'est ça qui est mort en 85.
Voilà.
Et pour justement se lancer un peu dans le bain de ce livre qui est passionnant, nous allons écouter un thème. Là aussi, d'un compositeur que vous appréciez, Georges Van Paris, dans un film dans lequel Simone Signoret a joué Les Diaboliques. Alors, Simone Signoret, Histoire d'un amour, c'est une biographie qui est proche en fait, d'un journal intime romancé. Vous allez vous attarder sur une période particulière de la vie de Simone Signoret, c'est son histoire, sa rencontre avec Yves Montand jusqu'à la mort de Marilyn. Pourquoi cette période si particulière?
Alors, ça s'est passé en deux temps. En fait, en trois temps même. Parce qu'en fait, à l'origine, c'est un ensemble de biographies romancées ou romanesques, comme on dit, que j'ai fait chez Calman Levy. En 2018, j'avais fait Marthe Richard, personnage extravagant. Ensuite, j'ai fait Arletty quelques années plus tard. Et après, Simone Signoret. Et à chaque fois, le principe, c'était de me mettre dans la peau du personnage et où le personnage racontait sa vie. Dans le cas de Signoret, c'était plus compliqué parce qu'elle-même avait écrit ses mémoires, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, excellent livre sorti en 76 chez Fayard, au Seuil à l'époque, après elle a publié chez Fayard, et qui est un livre remarquable, qui a été un succès colossal, et donc c'était pour moi compliqué de me mettre dans sa peau, dans la mesure où son livre vraiment était un livre même qui avait des qualités littéraires. Et donc j'ai fait un premier jet du texte, totalement, au L, si je puis dire, voilà, sans me mettre dans sa peau, et en prenant sa vie du début à la fin. Et le résultat était un livre très gros, assez ennuyeux, assez gris, qui manquait de chair, qui manquait d'incarnation. Et mon éditrice m'a dit, mais ça va pas, il y a un problème. Et ce que je lui ai avoué que mon problème, c'était que j'étais intimidé par Signoret elle-même, qui avait un caractère de cochon. Et même si elle est morte depuis 40 ans, si je me mettais dans sa peau, si je la pastichais, je me suis dit, elle va venir me voir dans mon sommeil, me taper sur le coin de l'épaule, me dire, dis donc Coco, de quoi tu te mêles, en toussant et en fumant. Non, je plaisante, mais vraiment, je me sentais pas autorisé à me mettre dans ces chaussures. Et finalement, après avoir longuement parlé avec mon éditrice, on a dit, bon, on va tout changer, tu vas reprendre vraiment le segment de sa vie passionnelle avec Montand, c'est-à-dire commencer à la rencontre avec Montand en 1950 et finir à la mort de Marilyn. C'est-à-dire que c'est l'acmé de leur amour, de leur passion, et ça englobe toutes les années 50. Et toi, elle m'a dit, tu vas te mettre dans sa peau, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. En fait, je n'osais pas, et j'ai intégralement réécrit le livre en deux petits mois, ce qui a été un travail de titan, parce que c'était juste au moment où sortait L'île de l'orgueil. Donc autant dire que j'avais des journées très occupées. Et voilà, et au bout de trois chapitres, une fois que j'étais dans les chaussures de Signoret, en fait, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai tellement l'habitude de me mettre dans la tête de mes personnages. Et ben, j'ai vécu par Signoret et Montand pendant deux mois. Et le livre est sorti tel quel, donc il est plus court que les précédents. Et c'est vraiment ressenti sur leur histoire d'amour, c'est-à-dire que je voulais pas non plus faire un, comme leur vie était vraiment se confondre avec les films, ce qui est pas le cas d'Arletty et bien entendu pas de Marthe Richard. Je voulais pas faire un livre de cinéphile avec une suite de tournage, donc je me suis vraiment recentré sur leur vie intime, sans non plus aller dans le ragot et dans le bruit de couloir, voilà.
Et alors, c'est très intéressant. C'est vrai que le choix du jeu de la première personne du singulier que vous utilisez donc dans la biographie de Marthe Richard, il y a un parti pris. Est-ce que pour rentrer comme ça, comme vous appelez, dans les chaussons un peu de cette personne, vous écoutez aussi des entretiens, une musicalité pour essayer de reprendre un peu ses intonations?
Alors, le but n'est pas de faire du biopic. Je ne déteste rien tant que ces biopics où on essaie d'être plus près du personnage réel, c'est-à-dire que où le maquillage est parfait, où au bout du compte c'est de la fabrication. Pour moi, les films qui m'ont le plus marqué de ce genre-là, parce que vraiment le biopic est un truc qui m'emmerde. Ça m'avait emmerdé. Non, ce qui m'a le plus impressionné, pourtant c'était pas un très bon film, c'était Le Promeneur du Champ de Mars, le film de Guy Diguian sur Mitterrand avec Michel Bouquet. Michel Bouquet, c'était Michel Bouquet, il s'était juste plaqué les cheveux en arrière, on lui avait vaguement noirci les tempes, c'est tout. Et pourtant, Bouquet, qui était un des plus grands acteurs français, qui a une carrière admirable, eh ben, il était tellement bon qu'on oubliait totalement que c'était Bouquet, on voyait Mitterrand, alors que jamais il cherchait à l'imiter, jamais il cherchait à trouver ses positions, ses mimiques. Et voilà, l'important, c'est que le théâtre, faut que le cinéma soit aussi du grand théâtre.
Et alors justement, en parlant de biopic, est-ce que vous avez vu le film qui a été fait sur Signoret et Montand avec Roche Dizem et Marina Foïs?
Alors je l'ai vu parce qu'il est sorti exactement en même temps que mon livre, c'était aussi l'occasion, et en fait je m'étais rendu compte que je savais pas du tout que ce projet était en cours. J'étais allé du côté de la place Dauphine pour aller humer un peu l'atmosphère, s'il y avait encore les mannes du couple Montand-Signoret, couple terrible, et je me suis rendu compte qu'il y avait un tournage, et j'ai demandé, on m'a dit oui, Diane Curis fait un film sur Signoret et Montand avec Roche Dizem et Marina Foïs. Je suis allé le voir. J'ai trouvé ça assez, plus, plus, plutôt honorable. Il y a un truc qui est amusant, c'est que le film commence exactement comme mon livre finit. Donc, j'avais fait une émission avec Diane Curie, on s'était dit que nos livres, enfin nos œuvres, si je puis dire, étaient complémentaires. C'est compliqué. J'ai trouvé que Marina Feuille, c'était bien, parce que c'est une excellente comédienne. Roche Dizem, qui est un très bon acteur, c'était un choix un peu étrange, parce que, et physiquement et vocalement, c'est vraiment pas ça, parce qu'il essayait vraiment de parler comme lui. Et puis, il y a ce moment très étrange, je sais pas pourquoi ils ont laissé ça, où ils le font chanter. Et Montand avait la voix du bon Dieu. Et franchement, Roche Dizem, qui fredonne vaguement, je sais pas pourquoi ils ont laissé ça, parce que là, tout à coup, ça casse le rêve.
C'est un livre, alors que, bon, je recommande tous vos livres, mais celui-ci est très intéressant. C'est l'autopsie d'un couple où, avec quand même un peu ce nerf qui les tient, c'est l'admiration mutuelle. Et Montand est un personnage flamboyant qu'on a aussi envie de détester pendant toutes ces pages. Signoret, on est aussi beaucoup pris de pitié pour elle. Mais c'est assez impressionnant de voir cette relation. Qui paraît parfois, on se dit, mais tout va éclater. Comment vous la percevez, cette relation qui, à bien des égards, semble totalement irréelle parfois?
C'est un vrai coup de foudre. D'abord, c'est une histoire de passion. Il y a eu une vraie attirance, d'abord physique, sexuelle. C'était tous les deux des fauves. Quand ils se rencontrent, c'est la rencontre du lion et de la panthère. Mais le lion et la panthère qui s'aiment, qui s'accouplent et qui décident de tout plaquer pour vivre entre eux, enfin pour vivre ensemble. Et ils sont chacun le meilleur dans sa discipline. Elle est la plus grande actrice française en train d'exploser à l'époque. Et lui est le plus grand chanteur qui est devenu une vedette extraordinaire, qui est une bête de scène que toutes les femmes désirent, convoitent, qui avaient une maîtresse par soir et ensuite une maîtresse par concert. Et tout à coup, voilà. Et là, c'est la lionne, là, pour rester dans la métaphore féline, qui tombe sur son mâle et qui dit « Celui-là est à moi, je veux le garder. » Et il est absolument fasciné par elle, parce que lui est un type qui vient d'un milieu très modeste, elle est une grande bourgeoise, lui c'est une famille de communistes, elle est une grande bourgeoise qui se veut des idéaux de gauche, voilà, et donc ils ont cette je puis dire affinité politique, idéologique. Elle a eu son bac, ce qui n'était pas le courant à cette époque-là pour les femmes. C'est une intellectuelle, elle lit des livres, elle pense, elle réfléchit. Lui est un instinctif. Parfois, il a des remarques, disons, deux doigts de la connerie. Mais ils ont une espèce d'équilibre entre eux, fait d'admiration et de concurrence aussi. Elle avait toujours une longueur d'avance. Elle savait pas chanter, mais elle a toujours une longueur d'avance. Elle le dominait intellectuellement et lui la dominait physiquement. Et donc de cet équilibre naît des couples les plus improbables, mais qui a fonctionné pendant des années, et surtout dont la notoriété a grandi au moment de l'essor de la télévision. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des reportages sur un jeune couple glamour, comme on a dit ensuite, c'était Montand Signoret. Quand ils achètent leur appartement sur les quais de Seine, la télé est là. Quand ils vont en voyage ou quand ils en reviennent, la télé est là. Quand il s'agit d'interviewer un jeune couple que tout le monde trouve beau, entre guillemets, riche et célèbre, ce sont les Montand et Signoret. Et ils ont toujours quelque chose à dire sur les sujets, comme ils sont très engagés, ce qui agaçait beaucoup de monde. Voilà, parce que les gens disaient, mais d'où vous nous parlez? Ils n'étaient pas communistes, mais compagnons de route. Ils donnaient des leçons de morale à tout le monde. Et en même temps, ils vivaient sur les quais de Seine, ils s'achetaient un château dans l'heure. Mais bon, ça c'est.
Et vous racontez ce voyage, justement, nu RSS, qui est assez impressionant, où ils découvrent quand même l'envers du décor.
Qui a été vraiment comme le voyage de Gide ou d'autres. Voilà, ils partent en URSS et ils se rendent compte que c'est vraiment Tintin au pays des Soviets, qu'effectivement, quand on pousse le décor, tout s'effondre et que derrière, il y a des gens qui crèvent de faim. Et ils l'assument, et ça va être le lieu d'une grande brouille familiale chez les Montand et d'une très honnête autoflagellation de la part de ce couple, qui fait qu'au départ, ils sont des grands supporters de Staline, et qu'ensuite, quelques années plus tard, ils tournent dans tous les films de Costa Gavras.
Et on va écouter Simone Signoret. Alors, c'est un entretien qui se déroule en 1970, donc, et elle parle justement de sa relation avec Montand.
Mais pour vous, alors, qu'est-ce qui est bien pour un mari, alors, d'être le contraire de vous?
Ah, c'est oui, il faut tout, il faut tout. Il faut Ne pas avoir mes défauts. Non, mais il faut que je puisse admirer, quoi. Complètement.
Et vous pouvez admirer même quelqu'un que vous connaissez très, très, très bien?
Ah oui, si... Si chaque fois je suis épatée de nouveau. Moi, avec mon temps, il y a des jours quand on se dispute comme ça. Parce qu'on se dispute. Puis je suis très en colère, très triste, très fâchée. Puis lui aussi. Mais s'il chante, par exemple, dans cette période-là, eh ben, je vais m'installer, là. Puis je le trouve tellement formidable que... Du moment qu'il m'épate, c'est bien. Moi, j'ai besoin qu'on m'épate, moi.
Moi, j'ai besoin qu'on m'épate.
Ben oui, mais ça, et c'est ça aussi, c'est la fameuse interview faite par France Roche, qui était très copine de Signoret, qui était dans la maison d'Auteuil, poser des questions. Oui, bah, c'est ce qui les a tenus. C'est-à-dire qu'à partir de l'affaire Marilyn, il y a vraiment une, disons, elle a fermé une porte, métaphoriquement et réellement. Entre deux, ils étaient un couple, ils sont devenus une sorte d'un partenariat. Mais jusqu'au bout, ils sont restés ensemble avec une. Un mélange de hargne, de colère et de complicité, parce que vraiment, il y en a fait voir de toutes les couleurs. Elle, elle était odieuse, assez méchante. Je l'ai rendue plutôt plus sympathique qu'elle n'était, mais elle avait morflé, comme on dit. Elle avait de quoi vraiment lui en vouloir. Il en a fait voir de toutes les couleurs, et parce qu'il y a l'affaire Marilyn, il y a plein d'autres choses. J'ai pas voulu rentrer dans trop de détails dans ce livre. J'aurais pu parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je voulais pas faire un livre de caniveau une fois de plus. Voilà, on sait ce qui s'est passé, on peut deviner le reste, mais vraiment, mon temps était un type qui a été redoutable avec elle, mais qui pouvait pas se passer d'elle. Elle était sa compagne, sa confidente, sa mère, en fait.
Elle l'a guidée beaucoup, en fait. Oui. Elle a été vraiment son... Est-ce que Montand aurait fait la carrière
cinématographique, sûrement, parce qu'au départ, il n'aimait pas ça. Il avait fait une première expérience du cinéma dans Les Portes de la Nuit de Carnet, parce que Édith Piaf l'avait poussé dans les bras de Carnet en disant je le quitte, il faut lui donner un os à ronger, prends-le pour jouer ton personnage, rôle qu'avait refusé Gabin. Et le film était un désastre complet. Tout le monde s'est foutu de la gueule de Montand, qui était le grand chanteur qui montait, mais on lui a dit Coco, reste avec tes petites chansons, n'essaye pas de faire du cinéma. Et donc, quelques années plus tard, il joue Le Salaire de la Peur, où il est très bon parce que Clouzot le tient, mais à Cannes, c'est Charles Vanel qui a le prix d'interprétation et il le vit très mal. Et ensuite, il tourne toute une série de films dans les années 50 où il est moyen, parfois bon, parfois pas bon, toujours très affecté, toujours très théâtral. Et c'est Costa-Gavras qui le révèle à lui-même. Costa-Gavras, qui était un peu presque l'enfant que Signoret et Montand n'ont pas eu, qui était un Grec arrivé en Europe et qui s'est mis sous leur protection et qui passait tout le week-end chez eux dans leur maison à Auteuil. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit le scénario de Compartiment Tueur, et dans lequel il a fait jouer tout, en fait, les habitués de la bande à Montand, et c'est-à-dire François Perrier, Pierre Mondy, plein de gens, qui Catherine Allégret, bien sûr.
Jacques Perrin.
Tous ces gens-là ont joué... en fait, presque bénévolement tous.
Michel Piccoli qui joue aussi.
Absolument, mais tout ça, c'est une même bande. Et surtout, c'est Gavras qui a décomplexé Montand, qui essayait toujours de jouer un peu les messieurs élégants, comme quand il joue dans comment ça s'appelle, Marguerite de la Nuit, le film d'Autant Lara, où il joue le rôle d'une espèce de Faust, mais il est très emprunté. Et tout à coup, dans le film de Gavras, ben, il a l'accent marseillais, et le petit marseillais, il n'a jamais été aussi juste qu'à part des autres. Là, puis ensuite, Sautet va lui donner ses plus beaux rôles, où là, en fait, Yves Montand, c'est César, c'est-à-dire c'est ce personnage hableur, hypocrite, de mauvaise foi, mais irrésistible, extrêmement sympathique et parfaitement odieux.
Oui, c'est ça, ça résume très bien César et Rosalie. Donc, Simone Signoret, Histoire d'un amour, il nous reste un petit peu de temps pour parler aussi d'une autre grande actrice, Arletty, Un cœur libre. Arletty, alors vous avez pareil, voilà, consacré, donc c'était en 2000...
Il est sorti en 2023.
Livre passionnant, où là, pour le coup, vous, vraiment, vous partez de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. C'est une biographie plus classique, toujours, mais toujours avec cette première personne du singulier. On va écouter une composition de Maurice Jobert dans un film qui... où la grande comédie narrative a commencé à vraiment prendre son ampleur, c'est Le jour se lève.
Mmh.
C'était le thème du Jour se lève de Maurice Jobert, film de Marcel Carnet, avec Gabin, Jules Berry, Arletty, Jacqueline Laurent. On voit aussi Bernard Blier qui a un petit rôle. Cette biographie d'Arletty est absolument passionnante. On commence en 1898, date de sa naissance, année de sa naissance. Arletty, est-ce que c'est l'actrice égoïste par excellence? On peut un peu poser cette question parce qu'elle a vraiment, tout au long de ses pages, on donne cette impression. Vous parlez d'un cœur libre, c'est une liberté, mais à quel prix justement?
C'est une actrice qui faisait passer sa liberté, son plaisir avant tout. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que, en fait, c'est une actrice qui a une carrière assez longue, mais qui est devenue comédienne par hasard, en passant par le théâtre, par des revues, par de la chansonnette stupide. Vraiment, elle le disait elle-même dans des revues parisiennes, dans des théâtres qui aujourd'hui ont disparu. Qui a fait du cinéma parce qu'il fallait bien faire ça, et qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à être connue, dont les succès, c'est surtout théâtraux, c'était fric-frac, ce genre de choses. Et en fait, qui restait célèbre pour 7-8 films étalés sur 6 ans, c'est-à-dire entre, disons, Hôtel du Nord et Les Enfants du Paradis, il se déroule, voilà, on est entre 38 et 44, ou 37, enfin, il se déroule 6-7 ans, et tout se passe dans ce petit segment-là, parce qu'elle a tourné des films jusqu'au début des années 60, mais je vous mets au défi de m'en citer plus de 10, et franchement, c'est, voilà, et même plus de 5, mais donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui vivait au rythme de ses passions, qui était une jouisseuse, qui aimait les hommes, qui aimait les femmes, qui aimait la vie, qui était très honnête intellectuellement, mais sa fameuse phrase, voilà, mon cœur est à la France, mon cœur est international, qui est sans doute due à Janson, elle-même ne savait plus si elle l'avait dit, c'était quelqu'un qui voulait profiter de tout, qui avait une enfance à la Zola et qui voulait vraiment, voilà, profiter de la vie. La vie, elle lui a fait payer parce qu'il y a eu d'abord, elle a payé, disons symboliquement, pour ses amours, des amours allemandes pendant l'occupation, et ensuite la nature a été terrible avec elle parce qu'elle a été aveugle pendant près de 25 ans. Donc elle a fini sa vie dans le noir, pas loin d'ici, à rue de Rémusat.
C'est une biographie absolument passionnante. Il y a notamment aussi une petite... je voulais vous faire réagir dessus. C'est qu'elle parle du théâtre, justement, en opposition avec le cinéma. Et vous lui faites dire, hein, puisque ce sont vos mots, « La comédie est un art qui ne s'apprend que sur scène, en respirant le même air que le public, en risquant chaque soir un faux pas. D'ailleurs, on a rarement vu un acteur de cinéma faire un malheur au théâtre. Il ne connaît pas les codes. Le cinéma est un art prodigieux, mais reste une illusion. » Le théâtre, en revanche, ne triche jamais.
Alors ça, c'est ce qu'elle a dit. En fait, elle a plusieurs fois dit ça. Alors je l'ai remis avec mes mots, mais c'est très proche de ce qu'elle disait. Alors c'est pas mon point de vue à moi, c'est le point de vue d'Arletty. Mais tous ces gens-là faisaient du... Pour eux, le théâtre, c'était l'argent de poche, que ce soit Jouvet, que ce soit Rému, que ce soit même Michel Simon, tous ces gens-là. Enfin, Simon, c'était plus un comédien, il a été beaucoup fait au cinéma. Mais tous ces gens-là considéraient que le cinéma, c'était une façon d'arrondir leur fin de mois, de payer leurs impôts. Mais c'est des gens qui avaient besoin du contact de la scène. Harry Bore, pareil. Harry Bore, on l'oublie, mais c'est lui qui a créé le personnage de César dans la pièce Fanny, parce que c'était l'époque où Rému s'était engueulé avec Pagnol. Donc tous ces gens-là vivaient par et pour le théâtre. Quand le Carl parlant a été inventé en France, la plupart des films c'était que des pièces de théâtre qui étaient, voilà. Et puis il y a un type comme Guitry ou Pagnol qui sont des gens de théâtre qui ont réussi à devenir encore plus géniaux au cinéma qu'au théâtre et à inventer une grammaire à eux. Mais ces gens-là vivaient par et pour la scène quand même.
Et alors le cinéma, justement, vous avez parlé du muet, du parlant, parce que en passant au parlant, le cinéma est devenu du théâtre de conserve.
Ça, c'était la fameuse formule. Mais c'est vrai que le parlant, c'est quand même le cinéma, jusqu'en 1928-1929, c'était un langage universel, c'était un espéranto. Et tout à coup, en retombant dans le parlant, c'est devenu un spectacle vernaculaire, limité par la voix, qui a mis plein de gens sur le carreau, parce que le fameux Emil Jannings, ce comédien allemand qui était génial dans Les Filles de Murnau, qui va aux États-Unis, qui est quand même le premier acteur à avoir obtenu un Oscar pour deux films, alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Et le parlant arrive 2 ans plus tard, il ne parle pas un mot d'anglais, donc il est obligé de revenir en Allemagne et refaire des films. Et là, c'est le début du Troisième Reich. Il fait des films jusqu'en 45, et après ça, sa carrière est brisée. Mais le parlant, c'est une bascule absolument passionnante. Et il y a vraiment eu deux mondes. Mais le muet, qui est c'est difficile aujourd'hui de voir des films muets, même on n'a plus l'habitude, mais quand on s'y plonge, il y a une liberté, il y a une folie que le parlant a mis du temps à retrouver.
Alors vous en parlez beaucoup du muet dans un roman qui est peut-être votre roman le plus cinéphile, où là on a l'impression que vous agglomérez toutes vos influences, c'est quelque chose de très assez jouisseur, complètement démiurge là pour le coup, et c'est absolument génial. On pense à plein de films, on pense même à C'est ce que l'on sait de Max Topar. Alors Max Topar, c'est une énigme. A-t-il existé? Et ce cinéaste, voilà, qui aurait fait un chef-d'œuvre, pourtant pas un film, pas une interview, pas même une photographie. Puis vous, voilà, ce roman, c'est la quête de ce cinéaste-là. C'est un sujet vraiment que vous vouliez aborder dans la matière romanesque depuis longtemps et qui est sorti en 2021. Voilà,
ce... Il est sorti en 2021, c'est un livre qui a été... Ça a été compliqué parce qu'en fait, il devait sortir au mois d'avril 2020. Le livre était prêt, et tac, il y a eu le confinement, et tout a été repoussé. Et donc, il est même sorti en 2022, je crois.
Ah oui, 2022.
Il est sorti en 2022, il me semble, je sais, en tout cas, il a été décalé et repoussé plusieurs fois. C'est un livre auquel je tiens énormément, d'ailleurs, parce que c'était vraiment le livre qui résume et qui synthétise toute ma passion du cinéma et d'un certain cinéma qui, moi, me parle, c'est-à-dire ce cinéma français, voilà, des années d'avant-guerre et qui remonte même à l'origine du cinéma, parce que c'est un film où on voit passer Méliès, on voit passer Max Linder, on voit passer Griffith. Enfin bon, je me suis amusé à mettre en scène toute l'histoire du cinéma des origines à la Nouvelle Vague par le truchement d'un personnage qui se serait appelé Max Topar, qui aurait été, disons, le plus grand génie oublié du cinéma français, qui aurait eu toutes les intuitions, mais qu'on aurait cancellé, comme on dit maintenant, qu'on aurait fait disparaître, parce qu'en fait, il avait eu trop de génie. En même temps, c'est un personnage complexe, ambigu, et plus rien ne resterait de lui. Et j'imagine une jeune journaliste qui se démarque un peu des journaux de la Nouvelle Vague, qui décide de faire une enquête sur lui, et cette enquête va lui permettre de remonter le fil de ce personnage qui a connu tout le monde, mais auquel tout le monde a tourné le dos.
Oui, c'est un livre totalement assez grandiose. J'ai pensé forcément, alors c'est amusant parce que dans La Reine de Mai, vous avez ce thème du portrait. On va dans le portrait, Max Topar aussi, on pense à La Rose Pourpre du Caire.
Absolument.
Voilà, de Woody Allen. Il y a toutes ces influences. Comment vous êtes amusé à mettre en scène, vous avez fait beaucoup de recherches pour mettre...
Oh oui, j'ai relu des histoires du cinéma que j'aime, j'ai revu des films. Moi, en fait, il faut que le livre soit le prétexte à des lectures, à des visionnages, à plein de choses. Et là, alors là, je m'en suis donné un cœur joie. J'ai relu au tout début l'histoire du cinéma de Bardèche et Brasillach, qui est vraiment une des meilleures qui soit, avec les défauts inhérents à l'époque et ça. Mais c'est admirablement écrit, et surtout quand il décrit la période du muet, c'est une merveille. Après, la deuxième partie du parlant, en fait, que par Bardèche, il y avait pas la plume de Brasillach, donc c'est moins réussi, mais ça reste intéressant. Mais aussi celle de Sadoul. Et parmi mes livres que je fais, j'ai les dictionnaires du cinéma de Tullard et surtout celui de Jacques Lourcel, qui est vraiment un livre que j'ouvre tous les jours en étant à la fois exaspéré parce que c'est tellement partial, le parti pris est tellement violent, mais voilà, quand il parle de Pasolini, il est d'un mépris, d'une violence, alors que moi, c'est un de mes cinéastes favoris. Mais c'est très bien, j'adore ne pas être d'accord. Et donc j'ai voulu, en fait, dresser un coup de chapeau à cet art, à cet univers qui m'a fait grandir, qui m'a vu grandir, dans lequel j'aurais peut-être aimé vivre, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'est un peu mon hommage à ce qui continue à me nourrir tous les jours, c'est-à-dire le cinématographe.
Alors, il nous reste un peu de temps. J'en profite pour poser une dernière question.
Oui.
Parce qu'on a glissé un peu dessus, mais c'est vrai que on a parlé. Vous avez évoqué dans les fidélités successives la période notamment de l'occupation qu'on retrouve dans cette biographie d'Arletty. J'imagine que vous avez vu le film Le Rayon et les Ombres de Xavier Giannoli.
Absolument.
Alors qu'en avez-vous pensé de ce film, vous qui connaissez vraiment bien cette période, qu'il avait mise en scène dans vos livres?
Ah ben, franchement, j'étais globalement content. Il y a la formule déçu en bien, mais je n'étais pas déçu du tout. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des choses que j'ai trouvées absolument remarquables. Ça fait très longtemps que j'attendais ce film. Giannoli est un cinéaste, pour moi, un des meilleurs cinéastes français actuels. C'est lui, il fait vraiment du cinéma. C'est pas du remplissage. C'est pas, voilà, j'avais été très impressionné par Illusion perdue. Voilà, pour moi, c'est un modèle d'adaptation littéraire, comme ce qu'on peut en faire. Si vous mettez en comparaison les épouvantables adaptations de Dumas, que ce soit Les Trois Mousquetaires, Le Soi-disant Milady, ou Le Calamiteux, Comte de Monte Cristo, qui vraiment est un film, c'est mon livre préféré, donc il m'a mis dans une colère noire. Ah, ça aussi, c'est comme Les Petits Mouchoirs, c'est un livre, ça fait partie de ces films qu'il faut fusiller dans le dos. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment que Les Réunions les Hommes était un film intelligent, le scénario de Fieschi est remarquable, c'est très intelligemment construit. Il y a des libertés prises avec la réalité historique qui change un petit peu les choses. Lucher, je crois qu'il avait 4 enfants et pas une seule fille, donc ça change un peu le rapport. Quand j'ai appris que c'était. Du jardin, j'ai fait la grimace, et quand j'ai vu le film, au bout d'un quart d'heure, j'oubliais que c'était OSS 117, et c'est là qu'on voit la patte d'un grand cinéaste. Peut-être que il aurait pu aller encore plus, c'est-à-dire que maintenant, il y a une polémique idiote où, 2 mois après la sortie, les gens disent que c'est un film complaisant, pas du tout. Voilà, c'est un film très honnête, qui aurait pu être aimé, mais qui n'a pas, j'ai pu dire, l'audace, surtout, dans la période actuelle, d'un film comme La Combe Lucien, voilà, de 74, de Louis Malle, avec le scénario de Modiano, où là, qui est un film beaucoup plus dérangeant et qui montre les paradoxes de toutes les ambiguïtés françaises, mais c'est quand même un des meilleurs films faits en France depuis bien longtemps, et à mon avis pour un petit bout de temps.
Il nous reste 1 minute, Nicolas Dessendorf. Ah oui, le temps nous est compté, le temps file. Quels sont vos futurs projets, justement?
Alors, les futurs projets, la série normalement continue. Alors, je ne sais pas exactement quand, mais là, je travaille sur la colère. Et là, c'est un roman où on partira justement dans le passé. Et puisqu'on parle du passé, je vais reprendre ma veine de romancier historique des fidélités successives qui se passaient pendant la guerre. La suite, La Gloire des Maudits, se passait dans l'après-guerre. Et là, je fais un roman sur les années 30, sur les années 35, 36, 37, où je mets en scène le Front Populaire, la cagoule, les Jeux Olympiques de 36, tout l'exposition internationale, tout ce bouillonnement-là, et dans une grande fresque romanesque avec plein de personnages, plein de rebondissements, et plein de ces petits second rôles que j'aime tant dans le cinéma français, et que j'essaie de mettre aussi dans mes livres. Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup d'être venu. La Reine de Mai, disponible en librairie. L'Île de l'Orgueil qui vient de sortir en poche. Simone Signoret, Histoire d'un amour. Arletty, Ce qu'on sait de Max Topa. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire cet été. Le temps est beau. Voilà, on ouvre un livre, on regarde Roland Garros et c'est parfait.
Merci
je vous
beaucoup.
Laisse. Je vous laisse et je vous dis donc à dans quelques semaines pour une nouvelle émission du Libre Journal du Cinéma. Merci à tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Cinéma dirigé par Philippe-Henri Rambaud, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 28 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.